Alors bonjour à tous.
J'ai
eu aucun commentaire négatif au sujet de la prédication de vendredi. Ça m'a beaucoup étonné parce que c'était quand même quelque chose de spécial. Mais il y a eu quelques questions, mais jamais négatives. Et donc je vous avais promis que j'allais parler encore sur ce sujet, enfin sur le sujet de la vision spirituelle, et c'est ce que je vais faire ce matin. Avec l'aide du Seigneur, suite donc à ce message de vendredi. Alors, je tiens à redire que je ne prie pas les anges ni les morts, c'est clair. On ne prie que le Père au nom du Seigneur Jésus. Alors, je veux simplement aider les chrétiens qui ont le saint désir de ressembler plus à Jésus. C'est ça mon but, c'est pourquoi je vis. On va lire Genèse chapitre 16, verset 13 pour commencer. Genèse 16, 13. Voilà ce qui est dit. Genèse 16, 13, je pense que vous y êtes. C'est Agar qui est dans le désert avec son fils. Et Dieu lui parle. Tu mettras au monde, donc il dit qu'il va mettre au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, pas moi qui le dis. Hein. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata. El-Roy, car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? Amen. Jésus, je te prie de bénir ces paroles que je vais donner, de permettre que chacun puisse marcher par l'Esprit et par la vue de l'Esprit aussi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous n'avez pas écouté le message de vendredi, écoutez-le, ça vous aidera à mieux comprendre ce que je veux vous dire ce matin. Il est question ici de Agar, dans le désert, Abraham l'a mise enceinte, et voilà ce qu'elle dit. Elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit ? Elle parle de voir, elle parle de celui qui voit. Dieu est le Dieu qui voit. Ça paraît simple de dire ça, mais il est partout, tout le temps, il voit tout et rien n'échappe à sa vue. On trouve dans Hébreux 4, 13 ce texte-là. Hébreux 4, 13. En effet, aucune créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, quand un ange vous visite, c'est un esprit. Il est à une place à la fois. Vous écouterez la prédication de vendredi, je ne veux pas remettre tout, mais il n'y a que Dieu qui puisse être partout à la fois. Aucun ange, aucun esprit, même le diable, il n'est pas partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui est partout à la fois, il faut que ça soit clair. Sachant ça, nous savons aussi que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, étant créés à l'image de Dieu, vous êtes des esprits qui habitent des corps, mais vous êtes des esprits voyants. Puisque Dieu voit tout et que nous sommes créés à son image, donc on est des esprits voyants. Et vous avez le droit, ayant été racheté par Jésus-Christ, de voir dans le domaine spirituel avec vos yeux spirituels. Malheureusement, on se sert plus de nos yeux charnels que de nos yeux spirituels, ce qui fait qu'on a des raisonnements charnels et non pas spirituels. Alors, c'est plus qu'un droit, je dis que c'est un droit, mais c'est plus qu'un droit, c'est une responsabilité. Nous avons cette responsabilité, la responsabilité de voir avec les yeux spirituels. Pour marcher dans l'esprit, Il faut avoir la vision spirituelle pour aller à la victoire. Si on n'a pas de vision spirituelle, bon, on fait n'importe quoi, puis après on s'étonne. On dit, ah oui, mais alors le Seigneur, oui, mais attends, attends, toi, tu es un esprit voyant, tu peux voir, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu regardes, est-ce que tu te donnes la peine de regarder? Souvenez-vous de la tentation au jardin d'Éden. On revient à Genèse, on va dire pas mal aujourd'hui, Genèse 3, 1, 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Satan dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. A-t-il menti? Non. Vous connaîtrez enfin le bien et le mal, vous serez comme Dieu. Et plus tard, Dieu dit, tiens, maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous, il a au sujet de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ève vit, elle a regardé avec ses yeux charnels, que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, elle a regardé donc avec ses yeux charnels, est précieux pour ouvrir l'intelligence parce qu'elle l'a appris par Satan qui lui a raconté son histoire. Et au verset 7, il est dit « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent ». Ça veut dire qu'avant, ils étaient fermés sur certaines choses. Ça, c'est la tromperie de Satan. C'est pas que Dieu voulait pas qu'on voie ce que Satan a illégalement donné à Adam et Ève, mais il ne voulait pas que ce soit Satan qui le leur donne. Il voulait le leur donner lui-même, plus tard. Mais Satan est venu, il a tenté, ça faisait partie du plan. Hein. Satan a donc tenté Ève et Adam d'entrer illégalement dans la dimension du voyant. Vous avez dans certaines Bibles, c'est écrit les prophètes, dans d'autres versions, c'est écrit les voyants. Hein, n'imaginez pas un voyant, c'est pas l'astrologue ou le médium ou le... Non, non, un prophète c'est un voyant, c'est quelqu'un qui voit. Adam et Ève ont vu que Satan voulait qu'ils voient et ce qu'ils ont vu, ça leur a fait peur, ils ont eu honte et ils sont entrés dans le processus de la mort qui s'est étendu sur la terre entière. Est-ce que vous pouvez voir ça, que la mort s'est étendue sur la terre entière? Ben oui, depuis des milliers d'années, il y a eu et il y a encore une bataille pour les yeux spirituels de l'humanité. C'est une véritable bataille. On va lire 2 Corinthiens 4:4. Voyons où est-ce que c'est. Si notre évangile est encore voilé, si la bonne nouvelle que nous prêchons est encore voilée, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce qui s'est passé en Éden, c'est que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence d'Adam et Ève. Ils ont vu le bien et le mal, mais c'est tout ce qu'ils ont vu. Satan est le Dieu que l'humanité a élu comme Dieu, comme souverain. Jésus dit, c'est le prince de ce monde. Les gens disent, oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur. Mais Dieu ne s'occupe plus de ce monde. Le monde a choisi Satan, ben, qu'il se débrouille. C'est pas méchant, c'est juste. C'est comme ça. Mais pour les prédestinés au salut, nous voyons briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous venons à Jésus, nous allons à la rencontre, je vous ai prêché ça l'autre jour, dans Hébreux chapitre 12, nous allons à la rencontre du mention, à la rencontre de Dieu, de Jésus-Christ, des justes qui ont été menés à la perfection, etc. Vous relirez ça. Jésus l'a dit clairement. On peut lire dans Jean chapitre 3, verset 3. Voilà ce qui est dit. Jean 3, 3. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Mais si vous êtes né de nouveau, vous pouvez voir le royaume de Dieu. Vous pouvez le voir. Voyez-vous de quoi nous sommes approchés lorsque je vous parlais vendredi passé de cela. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi nous nous sommes approchés? Lorsque notre esprit humain est né de nouveau, nos yeux se sont ouverts et se sont à nouveau ouverts, mais cette fois-ci légalement, sur le royaume de Dieu. Satan a menti, mais comme à chaque fois, il dit une part de vérité dans ses mensonges pour qu'on y croit. Mais Dieu, quand il nous a sauvés par son sang, par le sang de Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons par la foi, nos yeux s'ouvrent sur le royaume de Dieu. Dieu veut que vous voyez, et vous pouvez voir au travers de vos yeux spirituels reçus à la nouvelle naissance. Vous avez reçu des nouveaux yeux. Cependant, nombreux sont les croyants qui ne voient pas dans l'esprit. Ou ils voient, mais pas aussi clairement qu'ils devraient. Ils voient le béaba, parce qu'ils n'ont pas formé ce sens spirituel, ils n'ont pas exercé ces sens spirituels, ou parce que ces choses ont été dénigrées dans la religion dont ils font partie. On dit, oh non, vous savez, les visions, tout ça, enfin bon. De nombreux croyants ont juste aperçu ce que Dieu veut leur montrer, mais ils se contentent de rester des bébés spirituels. Ils croient les choses de base. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise d'esprit, Jésus revient bientôt. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Dieu veut leur montrer davantage dans le domaine de la vision. Ils sont des bébés. Des bébés. C'est pas mal d'être un bébé, c'est mignon les bébés, mais il ne faut pas rester bébé toute sa vie. À mesure que vous mûrissez, vous devriez avoir faim des choses spirituelles. Paul nous dit que nous devons rechercher l'amour, il a raison, et désirer les dons spirituels. On va lire ça dans Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Est-ce que ça vous intéresse ? 13, 5, 13, 14. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leurs expériences, ont le jugement exercé à discerner, c'est-à-dire à voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, etc., etc., laissons tout ça. Bon, et allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin. Le don de voyant fait partie de notre capacité donnée par Dieu à discerner, c'est-à-dire à voir les esprits, à les identifier. Discerner les esprits, c'est pas regarder quelqu'un puis juger parce qu'il a une sale tronche qu'il a des démons, ou parce qu'il a des tocs, ou parce qu'il a des trucs bizarres. Alors oui, on voit. Ça, c'est. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir le discernement des esprits, mais simplement ils regardent avec leurs yeux charnels et ils jugent. C'est pas ça. C'est pas ça le discernement des esprits. C'est pas ça avoir le don de voir les esprits. Nous devons prier, ô Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de mon esprit, aide-moi à voir ce que tu veux que je voie. Et... Mais les bébés, ils croient qu'ils savent tout. Moi, quand j'avais 18 ans, quand je me suis converti, je croyais que je savais tout. J'avais tout compris. Puis maintenant, quand je regarde, je me dis, bon, j'étais loin d'avoir tout compris. Hein. Mais j'étais sincère. Un bébé, c'est sincère. Il croit qu'il a tout compris. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des choses que vous ne pouvez pas apprendre. Ces choses doivent vous être transmises. Transmises, voilà pourquoi le titre de ma prédication. Je vous parle de mon témoignage, parce que c'est celui que je connais le mieux. Je connais ma vie. À peine étais-je converti que je cherchais à devenir ami avec Raphaël. Il y avait 600 personnes dans la salle. Moi, je suis allé vers lui, je l'ai invité à venir manger à la maison avec toute sa famille. Je voulais le connaître. Pourquoi je voulais le connaître? Parce que je voulais avoir ce qu'il avait. Je me suis dit, ce bonhomme-là, c'est un bonhomme normal, moi aussi. Mais pourquoi il se passe des miracles comme ça avec lui? Qu'est-ce qu'il a que moi j'ai pas? Je voulais savoir. Alors je l'ai invité, il est venu, je me rappelle, ils sont venus très bien élevés, les gitans, on les critique, certains les critiquent, ils sont arrivés avec plein de bouffe. Je me rappelle toujours Violette, elle est arrivée avec un immense plateau de sardines. Ma mère détestait les poissons et tout, c'était l'horreur. Mais c'était gentil, ils sont pas arrivés les mains vides, hein. Et on a fait une journée extraordinaire, c'était extraordinaire, on a lié amitié. Et petit à petit, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé de m'imposer les mains, de prier pour moi, de me transmettre ce qu'il avait reçu. Et puis, quelques temps après, j'ai rencontré T.L. Osborne. Vous avez toute l'histoire qui est racontée dans le site révélationbible.fr, je ne vais pas vous la raconter encore. Allez la lire. Et j'ai aussi voulu recevoir ce qu'il avait. Il avait encore plus que Raphaël. Et je voulais savoir quoi, comment il avait fait pour avoir ça. Je voulais qu'il me transmette les capacités qu'il avait et que je n'avais pas. Est-ce normal? On va lire Romains chapitre 1, versets 11 à 12. Romains chapitre 1, versets 11 à 12. Je désire en effet vous voir, c'est Paul qui écrit aux Romains, pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis. Il voulait leur communiquer un don spirituel, ou leur transmettre un don spirituel. Paul avait des choses à leur communiquer, des dons spirituels à leur communiquer. Comment Paul communiquait ses dons. Comment Paul transmettait ses dons? Eh bien, par l'imposition des mains. Il y a beaucoup de choses qui se transmettent par l'imposition des mains. Le Saint-Esprit se transmet par l'imposition des mains. Actes chapitre 8, verset 14-17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean imposèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Les dons spirituels. Regardons 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas les dons que tu as reçus. Pardon, ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Vous voyez, Paul exhorte Timothée à ne pas négliger le don qu'il a reçu, parce que quand on a reçu quelque chose, on peut le négliger. Mais comment l'avait-il reçu ? Ben, par l'imposition des mains de ceux du conseil. Pour consacrer des gens au service de l'Église, ben c'est encore l'imposition des mains. C'est pas n'importe comment. On peut lire ça dans Actes 6, versets 1 à 8. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, c'est-à-dire les chrétiens d'origine grecque, murmuraient contre les Hébreux. Ils étaient tous chrétiens, mais voilà, ils commençaient déjà à murmurer les uns contre les autres, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors, ça ne veut pas dire que les apôtres, c'est eux qui servaient la soupe, bien qu'il n'y a rien de déshonorant à servir la soupe, mais je vous rappelle qu'ils étaient à presque 10 000 personnes, alors 12 personnes pour servir 10 000 personnes, ce n'était pas ça. Ils servaient aux tables, ça veut dire qu'ils étaient comptables. Le mot comptable, dans le mot comptable, il y a le mot table, ils servaient aux tables, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de gérer les biens matériels, ils étaient dans la comptabilité, comme notre frère Stéphane, qui d'ailleurs, au passage, réussit ses examens, puisqu'il a une moyenne de 18,52 sur 20, et je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Pas seulement en comptabilité, mais en gestion, fiscalité, enfin, il a fait même hier un 19. C'est un examen qui traîne sur plusieurs semaines. Bon, alors donc, voilà, il n'est pas bien que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, c'est-à-dire à s'occuper de la comptabilité, puisque les gens, quand ils se convertissaient, mettaient l'argent au pied des apôtres, et les apôtres distribuaient à chacun ce dont il avait besoin, et c'était très embêtant parce que ça prenait beaucoup de temps. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui on rend un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicaor, Timon, Parménas et Nicolas. Non, pas Nicolas Savadogo, il n'existait pas encore. Il l'aurait choisi sinon. Hein. Et un non-juif d'Antioche le convertit. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent leurs mains sur eux en priant. Donc, même pour ça, pour que quelqu'un ait la charge de la distribution des biens dans la communauté, eh bien, c'était pas « Ah ben, t'as une bonne tête, ah ben, tu sais bien compter, donc voilà, ben, on te donne ce boulot. » Non, il y avait imposition des mains. On transmettait quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Pour le ministère, c'est la même chose. Regardez Deutéronome chapitre 34, 9. Deutéronome 34, 9. Voilà. Je suis dans Josué, là. 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà. C'est pas magique, c'est spirituel. C'est spirituel. Dieu prend ce qui est sur une personne pour le transmettre, le communiquer à d'autres. Est-ce que vous avez compris que c'est biblique? C'est biblique. On peut regarder ça dans Nombre 11, 24, 25. Nombre 11, 24, 25. Voilà ce qu'est dit. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, prit parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Enfin bon, Dieu a pris ce qui était sur Moïse et l'a mis sur les 70. Donc ça se transmet, Dieu, ça peut se transmettre directement par Dieu, mais ça peut se transmettre par l'imposition des mains. Et là, c'est Dieu qui a pris tout de suite sur ce qu'il y avait sur Moïse pour le donner aux autres. Ça se transmet. Alors moi, je courais derrière Raphaël, je courais derrière Osborne, je ne m'amusais pas à courir derrière les petits prédicateurs qui n'avaient rien. Non, je cherchais ceux qui réussissaient et qui avaient quelque chose qui était magnifique, merveilleux, pour qu'ils me transmettent ce qu'ils avaient. Et après avoir reçu, ben j'aurais pu rester chez moi en disant « ça y est, elle a l'air, je l'ai ». Non ! Après avoir reçu, il faut activer ce qu'on a reçu. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ne néglige pas ce que tu as reçu, le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Alors que la transmission vient de l'imposition des mains ou de Dieu directement, comme on a vu avec Moïse et les 70, il faut activer ce qui nous a été transmis. Alors, Michel, est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Voilà ce qui est dit. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il y en a encore d'autres conseils. Donc, il faut activer ce qu'on a reçu. Et Jésus les a envoyés pour qu'ils se mettent en action. Il nous faut utiliser ce que nous avons reçu. Vous n'avez peut-être pas forcément reçu les dons de guérison, mais vous avez reçu des dons que moi je n'ai pas. Eh bien, il faut les activer. Il faut les mettre au service de l'Église et du monde. Moi, j'ai cru que j'avais reçu... Et je me suis mis en action, tout de suite. J'ai eu la possibilité d'entrer dans cette œuvre magnifique de Tim Challenge à Paris. Eh ben, j'ai tout quitté, je suis parti. J'ai tout laissé, je suis parti. J'avais ma brosse à dents, deux slips, deux paires de chaussettes, deux chemises, deux pantalons, c'est tout. Un sac de couchage que m'avait... prêté gracieusement le pasteur Rachid Bouchami de Lausanne, il n'y avait même pas de fermeture éclair. Et puis voilà, je suis parti. Et puis on était bénis, ça a duré 7 ans, c'était magnifique. Puis après j'ai eu l'opportunité de partir en Inde. C'était un frère qui s'appelait Christian Dufour, qui faisait partie de la mission évangélique Zigane, et il cherchait un bus. Il était venu en France pour chercher un bus, mais il n'en trouvait pas, il voulait un bus qui fasse caravane en même temps. Parce qu'il avait monté des orphelinats là-bas en Inde, et il devait les visiter, mais ils étaient éloignés, ils faisaient tout à vélo, le pauvre. Et il est arrivé en France, il avait 2000 francs en poche pour s'acheter un bus caravane. C'est invraisemblable. Et puis moi, je le rencontre chez Camélia, on discute ça, de ça, puis moi je lui dis, si je te trouve un bus, est-ce que tu m'emmènes avec toi en Inde? Il me dit, ah, si tu me trouves un bus, je t'emmène un. Je dis, mais attention, je n'ai pas un sou. Hein. J'ai pas un rond. Il dit, non, mais si tu me trouves un but, je suis trop content, je t'emmène en Inde. Ça ne me coûte rien d'avoir quelqu'un à côté de moi pour lui donner de temps en temps un bout de pain à bouffer. Hein. Alors moi, j'avais ma petite idée. Il y avait une sœur qui s'appelait Simone Bessir. Je ne sais pas si elle vit toujours, hein, Simone Bessir. Elle avait un bus magnifique, un bus bébé, tout aménagé en caravane. Et je vais lui dire, tu sais, Christian Dufour, puis je lui raconte l'histoire. Elle me dit, j'ai téléphoné à ma maman, c'est ma maman qui me l'a donné, ce bus, je ne peux pas le donner comme ça. Faut que je demande à ma maman. Alors elle téléphone à sa maman, puis sa maman lui dit, quoi? Tu veux vendre le bus, mais tu vas faire plaisir de lui donner, mais c'est pour l'œuvre de Dieu, il faut lui donner. Donc Simone Bessir vient vers moi, me dit, ben écoute, ça y est, tu peux lui dire que le bus, il l'a, je lui donne, ma maman veut que je lui donne. Alors Christian Dufour n'en revenait pas, mais ça s'est passé en Inde l'après-midi. Hein. Et puis c'est comme ça que je suis parti en Inde. Et les frères et sœurs me disaient, mais Michel, t'as même pas prié pour savoir si c'était Dieu qui voulait que t'ailles en Inde. Je dis, mais pourquoi je priais que c'est... Dieu a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Je vais en Inde pour prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi je demandais à Dieu si c'est sa volonté? C'est sa volonté, puisqu'il a dit d'aller par tout le monde. L'Inde, c'est pas la planète Mars. C'est le monde. Ben, j'y vais. Oui, mais c'est dangereux. Mais je sais bien que c'est dangereux, mais c'est dangereux aussi de traverser la route. Tout est dangereux. Bon, alors, voilà. Et puis j'y suis allé, puis arrivé là-bas, bon, on a évangélisé tout au long de la route, on a eu des miracles, ça a été extraordinaire. Et puis quand on est arrivé là-bas, le premier ou le deuxième soir, je ne me rappelle plus, Dieu m'a parlé, mais je ne dormais pas. Hein. Il m'a dit, va, retourne en France et dis à tes frères que tu n'as fait que ce que je t'ai dit de faire. Il ne m'avait rien dit, mais... À part dans la parole de Dieu, dans la Bible, où il dit aller par tout le monde. Donc je fais ce qu'il a dit. Mais je n'ai pas eu besoin d'entendre une voix ou d'avoir une apparition de Dieu qui me dit va en Inde avec Christian Dufour. Non. J'ai cru que j'avais reçu et je me suis mis en action. Je ne suis pas un être spécial. Je suis juste un chrétien qui lit la Bible, qui la croit. Et qui fait tout simplement ce qu'elle dit de faire. Or, Jésus dit que chaque croyant peut faire cela. Il a dit, tous ceux qui croient en moi feront ces choses, et même encore de plus grandes, parce que je m'en veux au Père. Alors, j'ai tout quitté, puis je suis parti prêcher, et puis voilà. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui vivaient en communauté, j'ai bien regardé ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Et puis, j'ai dit, mais c'est le seul moyen de vivre la vie d'église, c'est de vivre en communauté. Je n'ai pas demandé à Dieu si ça lui plaisait ou pas. J'ai parlé avec des gens, il y en a qui ont dit oui. Le premier, c'était Dominique. Il est toujours là. Ça fait combien, moi? 60 ans. Vous voyez, il faut respecter les règles bibliques. Tout comme vous recevez la transmission par la foi, vous devez prendre des mesures pour utiliser ce que vous avez reçu par la foi. Par la foi. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 7 nous dit. 2 Corinthiens 5, 7. Je lis. J'espère que c'est bien ça. 2 Corinthiens 5, 7. Parce que là, j'ai marqué 2 Corinthiens 5, 7. Et puis, il me semble que c'est pas ça. Non, ça va. On va voir. Oui, c'est ça. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, je vous prêche de voir, d'être des voyants. Mais quand on marche par la foi, on voit. C'est-à-dire que on est spirituel, on regarde les choses d'une façon spirituelle et on voit, pas comme le monde voit, mais on voit. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il nous a dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre marche par la foi, c'est la marche par la vue dans la dimension de celui qui voit. Retenez bien ça. La marche par la vue, la marche par la foi, pardon, c'est la marche par la vue dans la dimension de celui qui a les yeux ouverts par le Saint-Esprit. La réalité, c'est que si vous n'essayez pas de voir, eh ben vous verrez probablement jamais rien. Et puis vous attendrez toujours. Moi j'en ai connu, hein, même des vieux qui m'ont dit « Ah Michel, Dieu m'avait appelé, puis j'ai tellement attendu que les signes et ceci, cela, ben, finalement j'ai rien fait. » Voilà, les gens demandent des signes. Ils veulent poser des toisons. Il faut savoir, moi, je fais pas ça. Je fais pas ça. Pourquoi faire ça? Moi, je comprends pas. Je trouve que c'est un illogisme, ou alors c'est parce qu'ils ont la trouille. Moi, il y a des choses qui me foutent la trouille. Je vais vous expliquer, par exemple, maintenant, là, je me suis fait opérer donc de la cheville, et il faut que je marche avec des béquilles. Mais je ne trouille de marcher avec des béquilles, mais c'est terrible. L'autre jour, le kinésithérapeute a voulu me faire descendre des escaliers, mais j'étais tellement tendu, j'avais tellement la trouille que j'ai dû m'asseoir. J'avais envie de vomir. Sur certaines choses, je suis un trouillard. Et puis pour sur d'autres, non, pas du tout. Pas du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont la trouille de se mouiller, ils ont la trouille de faire des pas de foi. Ils disent, ouais, puis si ça marche pas, ouais, puis si je vais vivre en communauté, puis que finalement ça me plaît pas, ben, qu'est-ce qui va m'arriver, voilà. Ils ont la trouille. Par exemple, si je choisis, il y en a qui ne voient jamais rien, hein, si je choisis de ne pas regarder mon frère Dominique, ben, je ne le vois pas, je regarde ailleurs, puis c'est tout. Mais si je décide de le voir, hop, je tourne la tête vers lui et je me positionne pour le voir. Vous comprenez? Je me positionne pour le voir. Et qu'est-ce que je vois? Ben là, je vois qu'il est tout beau, qu'il est allé chez le coiffeur. Vous comprenez? Il faut se positionner pour voir. Si vous ne vous positionnez pas pour voir, vous ne verrez jamais rien. Si vous ne vous attendez pas à voir, vous ne verrez jamais rien. Vous verrez avec vos yeux charnels, ne vous verrez rien avec vos yeux spirituels. Je crois que vous pouvez recevoir une transmission en entendant la parole prêchée. La prédication, l'enseignement de la parole, passe par la porte de votre esprit. Mais si ça passe que par l'intelligence, c'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance. Il faut que vous ayez l'esprit ouvert. C'est pourquoi je vous recommande toujours, avant de venir à la réunion, de prier le Seigneur pour que votre esprit soit bien ouvert, que vous puissiez entendre et voir ce que Dieu veut que vous entendiez, que vous voyez. Comprenez qu'il n'y a pas de personne spéciale. Osborne n'était pas un homme spécial. Branham n'était pas un homme spécial. A.A. Allen n'était pas un homme spécial. Bonnke n'était pas un homme spécial. Simplement, c'était des hommes à qui quelque chose a été transmis parce qu'ils l'ont cherché. Celui qui cherche, il trouve. Osborne, il a reçu simplement en écoutant Branham. Voilà. Et puis Osborne, il a eu, depuis, à partir de ce moment-là, des dizaines de milliers de miracles dans son ministère parce que il a reçu parce que ça lui a été transmis quand il a vu, quand il a entendu. Et puis un jour, Osborne était en France, et il était à une convention de Zigan, et il y avait à peu près 2000 personnes. Dans la foule, il a vu Raphaël. Mais pourquoi il a vu Raphaël? Il l'a vu avec les yeux de l'esprit. Il a dit, toi, tu es Caleb. Caleb, c'était quelqu'un qui faisait rien comme les autres. Mais Raphaël, je peux vous dire qu'il ne faisait rien comme les autres. Hein. Il a prophétisé sur Raphaël, imposé les mains, et Raphaël a reçu ce qu'Osborne lui a transmis. Et il a eu des milliers de miracles. Sur son lit de mort, il priait pour les malades qui étaient guéris. Je le sais, je l'ai vu. Et puis, Raphaël est venu en Suisse. Lui, son idée, c'était d'aller en Belgique. Puis, Dieu lui a dit, non, il faut aller en Suisse. Parce qu'il écoutait, parce qu'il voyait, parce qu'il regardait avec la foi. Puis il est venu en Suisse, et par un concours de circonstances voulu par Dieu, au travers d'un copain qui s'appelle Daniel Siegenthal, J'ai entendu parler de Raphaël et je suis allé le voir. Et quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je l'ai invité chez moi, je voulais ce qu'il avait reçu et il me l'a transmis. Vous avez vu sur Révélation Bible, j'ai mis une photo de Raphaël en train de prier pour moi. Puis j'ai rencontré Théo Osborne qui m'a imposé les mains et j'ai reçu ce qu'il m'a transmis. J'ai mis aussi une photo d'Osborne en train de m'imposer les mains. Mais cherchez les ministères qui fonctionnent, qui sont selon la parole de Dieu, où on voit que Dieu agit. Mais si vous allez à l'église, un mot pour aller à l'église, posez votre derrière parce qu'il fait chaud l'hiver et puis parce qu'il fait frais l'été, et puis que vous sortez de là comme vous êtes rentré, puis que vous dites « Oh là là, ce pauvre pasteur, au moment il m'apporte rien », mais n'y allez plus. Allez vers des gens qui marchent avec Dieu et qui ont des résultats. Moi, je comprends pas les gens. Je comprends pas. Je ne fais pas. Moi, je suis allé dans plus de 70 pays par la foi. Par la foi. Jamais j'ai demandé à Dieu si je pouvais aller ici ou là. Hein, Philippe, quand on est parti au Burkina, c'est Dieu qui m'a dit d'aller au Burkina? Non. On est partis tous les deux. Moi, je ne savais même pas où c'était le Burkina. J'avais le billet d'avion, on avait nos billets d'avion dans la poche. Philippe, il disparaît pour aller je ne sais pas trop où, puis il revient avec un tract. Puis il me dit, tu vois, c'est là qu'on va. Puis il me montre une carte du Burkina. Je dis, ah bon? Je savais même pas où c'était le Burkina. Et puis je m'en foutais du Burkina. Mais j'avais une porte ouverte. J'y suis allé. Et puis merci Seigneur qu'on y est allé. On marche par l'esprit, pas par la vue. Mais marcher par l'esprit, c'est marcher par la vue de la foi, avec des yeux spirituels. J'étais à l'écoute. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille au Burkina. Mais c'est pas Dieu qui m'a dit qu'il fallait que j'aille au Burkina. Et j'ai même pas, moi, ça me disait rien d'aller au Burkina. Et puis, ça fait 22 ans que j'y vais. Je vais là où je vois qu'une porte s'ouvre. C'est tout. Et à chaque fois, il y a des miracles. Et à chaque fois, il y a même eu deux résurrections de mort. Une en France et une au Burkina. Quand Jésus dit « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts », mais c'est une réalité, on peut le faire. Mais encore faut-il y croire, encore faut-il croire qu'on a reçu, que ça nous a été transmis. Alléluia! Soyez des voyants de la foi. Ne marchez pas par la vue charnelle, mais par la vue de la foi. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur est avec vous. Ne doutez pas et allez de l'avant pour la gloire de Dieu. Vous savez, on dit toujours Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, mais il a dit quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Ben, des fois, je me demande, hein, parce que quand je vois ce que je vois, je vous dis que j'ai raison de penser ce que je pense. Hein. Alors, réveillez-vous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir.